Bonjour à tous. Alors, avec Samuel, mon mari, nous venons de Toul, mais en fait, je suis là aujourd'hui au nom de la commission des ministères, dont je fais partie, durant ce temps de récupération de Pascal Keller. Donc, on vient, le mois prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, on vient aussi vous soutenir. Et c'est vrai que, étant à Toul, on se voit régulièrement, au moins une fois l'an, lors des réunions inter-églises. Alors, j'ai préparé un petit slide. Voilà, merci Sophie. Je voudrais vous demander, comment est-ce que vous avez choisi vos vêtements ce matin dans votre garde-robe ? Alors pour certains, c'est une grande question, pour d'autres, non. Vous voyez, voilà, en fonction du contexte où on est, en fonction de ce qu'on veut présenter, on ne s'habille pas de la même manière. Et comment on peut se sentir dans ses vêtements ? Si on est habillé comme il faut selon les circonstances ou pas, peut-être ça vous est déjà arrivé de vous sentir décalé. En tout cas, on dit dans le dicton que l'habit ne fait pas le moine. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se rappelle que Dieu nous offre un nouveau vêtement. Je peux mettre la slide suivante. Dieu nous offre un salut qui transforme. Je vous invite à prier avant de lire le texte biblique. Oui, merci Seigneur, parce que c'est un privilège de pouvoir être réunis et de pouvoir être enseignés par ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Que toi, tu sois glorifié. Amen. Je vous invite à lire Ésaïe 61. Je lirai dans la traduction Louis II. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur porter de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation du Seigneur, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu, vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leurs activités et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connu parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé s'orne d'une parure, tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. En effet, comme la terre fait sortir son germe Et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Le prophète Ésaïe nous parle de l'envoyé du Seigneur et de sa mission de délivrance du peuple de Dieu. Ésaïe était un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il vivait à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ et il a parlé de la part de Dieu pendant plus de 40 ans, donc sous le règne de plusieurs rois de Juda à Jérusalem. Le rôle d'un prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Il révèle la volonté de Dieu, il dénonce le mal. Et Ésaïe était un visionnaire sur plusieurs échelles de temps. C'est un peu comme lorsque vous voyez une forêt, quand vous êtes loin, vous avez l'impression que tous les arbres sont alignés. Et puis quand vous vous approchez, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une différence sur le plan horizontal, en profondeur dans la forêt. Une prophétie peut ainsi se lire sur plusieurs échelles de temps. Et c'est Dieu, en fait, qui est maître de l'histoire, qui est souverain. Ésaïe 61, ça se situe dans l'annonce de la captivité de Jérusalem, qui sera en ruine, qui est en ruine, mais il y a une consolation qui va suivre. Il y a une application directe, il y a aussi des applications pour nous. Ésaïe ici annonce l'arrivée de l'envoyé de Dieu qui offre un salut qui transforme des vies. Alors qui est cet envoyé de Dieu ? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'envoyé parle ici de sa mission, de son identité. Il est rempli de l'Esprit Saint de Dieu, ce qui lui permet d'avancer avec assurance. Cet envoyé, on le sait, c'est Jésus-Christ. Plus de 400 ans avant sa naissance, Ésaïe annonçait sa venue. Jésus-Christ est avant tout cet envoyé de Dieu qui ne vient pas de sa propre autorité, mais qui se soumet à son Père. Il vient avec humilité, mais avec la puissance de Dieu. Il vient manifester l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, la voix de Dieu, le jour de son baptême, la présence de la colombe, ça manifeste la puissance de Dieu, ça manifeste qu'il est vraiment cet envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu est oint par Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça signifie ? Oindre, c'est verser de l'huile sur la tête de quelqu'un ou sur un objet. Et la première onction dans la Bible, c'était Jacob. Vous vous souvenez, quand Dieu s'est révélé à lui, il a versé de l'huile sur la pierre où Dieu s'est révélé à lui. Dans l'Ancien Testament, l'onction des personnes concerne principalement des sacrificateurs, des rois ou des prophètes, lorsque Dieu les appelait et qu'il leur donnait toute sa puissance, tout son Esprit Saint pour remplir leur ministère. Jésus a été oint par Dieu, il est rempli de l'Esprit Saint de Dieu pour remplir sa mission. Il est le Messie, ce qui signifie loin, celui qui est oint par Dieu. Tout comme en grec, c'est le Christ, la traduction de l'hébreu Messie, ce qui signifie qu'il a vraiment reçu cet Esprit de Dieu qui repose sur lui, qu'il a reçu le pouvoir de délivrer le peuple et d'établir son royaume. Et Jésus-Christ va concentrer dans sa personne toutes ses onctions de l'Ancien Testament, ses onctions de prophète, de prêtre et de roi. Jésus-Christ est Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour accomplir sa mission. Et puis, ce qui est merveilleux dans ce que nous annonce Ésaïe, c'est que le serviteur de l'Éternel ne va pas se contenter d'annoncer la bonne nouvelle, mais il la porte avec lui. Et la mission du Seigneur Jésus est décrite dans Ésaïe 61 qu'on a lu. Et rien qu'à lire les verbes d'action de ce que l'envoyé va faire, c'est stupéfiant de voir tout l'amour de Dieu, tout ce qu'il nous amène en Jésus-Christ. Il annonce la bonne nouvelle, il panse les plaies, il proclame la bonne nouvelle, il console, il rétablit, il habille de neuf. Et puis un peu plus loin, au verset 8, on dit qu'il est droit, qu'il récompense, qu'il fait alliance, qu'il bénit, qu'il fait germer. C'est vraiment des actions positives. J'ai été impressionnée de voir tout ce que Dieu veut nous apporter de bon, tout l'amour qu'il veut pour nous et qu'il veut nous faire grandir aussi. Dieu a envoyé, c'est vrai, différents serviteurs tout au long de l'histoire. Et puis Jésus-Christ est le serviteur parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ ? On peut lire tout au début de son ministère, dans Luc, au chapitre 4. Vous avez peut-être reconnu des versets d'Ésaïe. Quand Jésus, tout au début de son ministère, est revenu à Nazareth, et comme à sa coutume, il est entré dans la synagogue. On le lit dans Luc 4, au verset 16. Il est entré dans la synagogue le jour du sabbat, et il s'est levé pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre, et il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc Jésus cite Ésaïe 61 et il dit, « Voilà, c'est moi qui accomplis cette prophétie. » Donc cette prophétie d'Ésaïe, elle s'appliquait vraiment sur plusieurs échelles de temps. Déjà à son époque pour Judas, pour le temps de Jésus, et puis il y a aussi des choses pour nous. On peut déjà noter que Jésus arrête sa lecture en disant « L'envoyé vient proclamer une année de grâce ». C'était ça la mission de Jésus. Il est venu proclamer la grâce de Dieu. Mais il y a une suite dans Ésaïe. Et cette suite, qui parle d'un jour de vengeance de notre Dieu, elle s'accomplira plus tard, lors du second retour de Jésus-Christ, à la fin des temps, quand il prononcera son jugement. Parce que la vengeance annoncée de Dieu, c'est-à-dire le châtiment des ennemis de Dieu, est inséparable du salut des fidèles. Il y a toujours ces deux choses ensemble. Oui, il y a la grâce de Dieu, mais un jour, il y aura aussi son jugement. Alors préparons-nous, accueillons cette grâce de Dieu. Et puis, on peut souligner que Ésaïe, que Jésus parle un jour de vengeance, mais une année de grâce. Le psaume 30 nous le dit, « Sa colère, la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance dure toute la vie. » L'année de grâce dont parle Ésaïe, ça fait référence au jubilé dans l'Ancien Testament. C'était une année de libération, une année de grâce, que Moïse avait institué, qui devait revenir tous les 50 ans. Les esclaves israélites étaient remis en liberté. Ceux qui étaient trop pauvres et qui vendaient leurs terres ou qui vendaient leurs services à d'autres israélites devaient être remis en liberté tous les 50 ans. Ça remettait les compteurs à zéro et ça permettait à ce qu'il n'y ait jamais de grande pauvreté dans le peuple avec ce système. Mais les Israélites ne l'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté les lois de Dieu. Mais, quoi qu'il en soit, cette année de grâce, ce temps de libération, c'est une belle image de la grâce que Jésus nous amène. Jésus qui libère. C'est aujourd'hui le temps de la grâce, nous dit un autre passage de l'Écriture. Alors, est-ce que nous avons saisi cette grâce que Jésus est venu nous offrir à Pâques ? Nous venons de fêter Pâques. N'oublions pas cette grâce du Christ tous les jours de notre vie, durant toute l'année. Alors, on va voir dans un deuxième point en quoi consiste l'œuvre de la grâce de Jésus, l'œuvre de l'envoyé. Jésus est venu sur terre pour annoncer cette faveur de Dieu, cette année de grâce, ce temps de grâce pour le monde entier qui a commencé lors de sa venue sur terre. Et aujourd'hui, cette mission continue à travers l'Église, même si elle peut être petite, même si peut-être elle est faible, peut-être même qu'elle le fait mal, mais c'est sa mission de continuer cette œuvre de grâce de Jésus-Christ. Alors on va voir comment Ésaïe en parle. Au début d'Ésaïe 61, versets 1 et 2, l'envoyé annonce une bonne nouvelle qui va relever les personnes qui sont humiliées. L'expression « bonne nouvelle », c'est l'évangile en grec. Le message de Jésus est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Jésus vient panser, ou d'autres traductions disent guérir. Il vient guérir les cœurs brisés. Il vient délivrer les captifs. Il vient consoler ceux qui sont dans le deuil. Au verset 7, il parle d'enlever la honte, de donner une double part. Dans l'Ancien Testament, la double part, c'est ce qui était réservé au fils aîné. Désormais, Jésus vient offrir sa double part à tous ses enfants. Dieu est multiplicateur. Il a plein de largesses en réserve pour nous et il n'attend que le moment de nous les donner. Et puis, il nous parle de la joie qu'il veut nous donner. Il parle de l'image du mariage. Dieu veut donner sa joie, Dieu veut consoler aussi son peuple. Ésaïe parle au peuple qui est en captivité, mais ça a une portée bien plus grande. Alors, peut-être aussi pour le peuple d'Israël actuel, je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais il y a une portée pour nous aussi, aujourd'hui, pour l'Église aujourd'hui. Peut-être il y a aussi des choses qui nous rendent captifs aujourd'hui, des choses que je dois déposer au pied de la croix, des choses dont j'ai besoin d'être libérée. On l'a chanté tout à l'heure, « Seigneur, viens me libérer, viens nous guérir ». Le texte parle d'humiliation, de cœur brisé, de deuil, de choses qui rendent captifs ou qui peuvent nous rendre honteux. Et je suis sûre qu'on est tous concernés par l'un ou l'autre de ces aspects, voire plusieurs. Est-ce qu'on m'a humilié ? Est-ce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à pardonner ? Est-ce que j'ai été brisée par des attitudes, par des paroles de personnes autour de moi ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous tiennent captifs ? Peut-être un tempérament colérique, un non-pardon, une addiction ? Le dictionnaire nous dit que l'addiction, c'est tout ce qui nous rend dépendants. C'est donc une captivité, quelque chose qui nous pourrit la vie, qui sans cesse vient nous titiller, vient nous maîtriser. Ça peut être aussi une rancune, ça peut être l'addiction au travail, l'addiction à la performance. Ou bien Ésaïe nous parle aussi de choses qui nous rendent honteux, des choses peut-être qu'on a subies, des actions passées, dont on n'arrive pas à se pardonner. On voit que Ésaïe, tout comme Jésus, met le doigt sur des choses qui ne vont pas dans notre vie. Il vient nous offrir son aide et son pardon. Parce qu'on voit qu'on n'est pas capable de nous libérer nous-mêmes. On a besoin de Jésus. Et puis Jésus vient aussi consoler les malheureux, ceux qui souffrent de la solitude, de la maladie, ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui peinent à se relever, qui sont tombés. Et on peut venir à Jésus chaque jour pour lui dire ce qui nous fait mal, pour nous dire quelle perte on a subie, pour nous dire nos luttes. Et Jésus veut nous relever. Quand on est tombé, quand on est abattu, lui seul sait exactement ce dont on a besoin. Et il veut combler nos vides. Il vient nous conduire vers un chemin, sur le chemin de la libération. C'est ce que ce texte vient nous dire ce matin. L'Église de Jésus-Christ a aussi besoin d'être consolée, d'être purifiée, d'être libérée, peut-être de fausses croyances, d'abus. Jésus vient nous donner ce dont on a besoin. On n'en est peut-être pas toujours conscient, mais il vient pointer dans nos cœurs quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos difficultés, et il veut nous guérir. Jésus a dit qu'il est venu pour les malades et pour les pauvres. Il l'a dit dans les évangiles, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais je suis venu pour ceux qui se savent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. » Le sermon sur la montagne va inaugurer ce règne de la grâce de Dieu. Et c'est vrai que l'histoire nous le dit, souvent ce sont les gens pauvres qui sont les mieux disposés à recevoir l'évangile. C'est ce qui s'est passé notamment au Laos, quand l'évangile est arrivé en premier dans les villages de lépreux, parce que les lépreux, c'est des gens qui étaient chassés de leur village, qui n'avaient plus rien, qui étaient pauvres, et qui devaient créer un autre village ailleurs. Et c'est eux les premiers qui ont accepté le message d'amour de Jésus-Christ. C'est par eux que l'évangile est rentré dans le pays, et ensuite s'est propagé. Et ça a été le cas dans d'autres pays aussi. L'épître de Jacques nous le dit aussi. Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'ils deviennent riches dans la foi et reçoivent le royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Est-ce que moi aussi, je reçois cette parole de Dieu en toute humilité, comme le Seigneur le demande? Est-ce que je me laisse toucher par sa parole, par les points qu'il vient me montrer? Est-ce que je me mets à ses pieds pour écouter, pour lui demander d'intervenir dans ma vie et changer de comportement, le laisser me transformer? Le salut de Dieu donne des bienfaits qui sont représentés par plusieurs images dans notre texte d'Ésaïe 61. Au verset 3, en français courant, il est écrit « Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie, la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. » La splendeur, ou le diadème selon les traductions, ça remplace la cendre qui signifiait le deuil. C'était ce qu'ils se mettaient sur la tête lorsqu'ils étaient dans le deuil. Alors que quand ils étaient dans la joie, lors des fêtes, lors des mariages, ils se faisaient des couronnes qu'ils portaient. Et puis, l'huile d'allégresse, c'est une huile aromatique avec laquelle on parfumait la tête des invités lors d'un banquet. Et puis, il nous parle des habits de louange qui remplacent l'esprit abattu. Jésus nous offre un nouveau vêtement, un vêtement de joie, un vêtement de louange et d'honneur. Mais est-ce qu'on le veut? Jésus a tout payé à la croix, mais il faut que j'accepte ce cadeau. Il faut que j'accepte ce nouveau vêtement qu'il m'offre, que je le reçoive et puis que je décide de le porter aussi. Le verset 10 nous explique l'œuvre de Jésus-Christ. « Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte est un manteau dont il me couvre. » Et du coup, j'ai la joie. Dieu veut me couvrir du manteau de sa justice. La justice, au tribunal, justice est faite quand quelqu'un paye pour le mal commis. Quand on a subi des torts, on a envie que l'auteur du mal paye sa faute. Jésus a payé mon péché. Moi, je peux être libre. Alors, si je le crois, il me déclare juste. Je peux entrer dans sa fête avec ce nouveau vêtement de sa justice. Sa justice, c'est ce salut qu'il me donne. Je n'ai qu'à recevoir sa grâce comme un cadeau et ensuite je peux marcher à sa suite. Romains 13 nous dit « Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ et ne vous laissez pas entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les convoitises. » Et il dit « La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité. Prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. » Mon rôle, notre rôle, votre rôle, c'est de nous dépouiller, de renoncer aux habits de notre vieille nature. Pourtant, on y reste parfois accroché. On a envie de garder les choses qui nous font notre vieille nature, hein, tout ce qui fait ma vie. Mais Christ nous demande d'ôter nos vieux habits, ce vieux manteau d'orgueil, ce vieux manteau d'autosatisfaction, de rancune, de colère, de honte, de tout ce qui peut me dominer pour accepter et recevoir ce nouveau vêtement que Christ me donne, sa justice. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est ce que nous dit Ésaïe, Dieu me donne encore plus, il me donne la parure complète, il donne couronne, parfum, parce qu'il dit qu'il s'engage dans une alliance éternelle pour moi et pour ma descendance. Dieu fait des promesses formidables. Alors comment refuser un tel salut ? L'envoyé de Dieu nous offre un salut qui transforme la vie. On peut le voir dans un troisième point. Cette grâce de Dieu, elle nous transforme. Les personnes mariées se souviennent peut-être facilement du jour de leur mariage, quand elles étaient au centre de la fête, au centre de l'attention, habillées avec élégance, tout chic. Non pas que les habits ont le pouvoir de transformer les personnes comme par magie, mais il y a un événement là derrière qui est une réalité qui nous transforme, qui est une réalité qui change pour les personnes et qui se manifeste dans cet événement. Avec le manteau de la justice de Dieu, j'ai reçu une nouvelle identité. Je change de famille parce que désormais, je fais partie de la famille de Dieu. Et le diable n'a plus autorité sur ma vie. Alors bien sûr, il va essayer de m'influencer, mais j'appartiens à Christ. Donc je peux me placer sous son autorité. Christ est mon défenseur devant le trône de Dieu, là où Satan m'accuse. Mais le Seigneur est avec moi. Et je peux le proclamer et dire, non Satan, tu n'as plus rien à me dire. J'appartiens à Jésus. Et le Seigneur m'accompagne sur ce chemin de la libération. C'est un chemin de progression, c'est vrai, avec des hauts et des bas. Ça ne doit pas nous faire peur. La Bible ne nous dit pas que tout sera rose, que tout ira bien. Non, mais elle nous dit que Christ est avec moi tous les jours et qu'il m'accompagne, que c'est un chemin vers la libération, un chemin de liberté. Le salut, Ésaïe 69 nous dit que c'est comme un germe, comme une graine que Dieu plante dans nos vies et qui va grandir. Dieu nous dit que Dieu fait croître ce germe. Et il nous parle de chênes. Les térébintes, c'est des chênes. Un chêne, ça ne pousse pas en quelques jours. Et la croissance dans la vie chrétienne, eh bien, ça prend du temps aussi, de la patience. Ça implique du temps, ça implique des saisons, de la patience. Et souvent, la croissance se fait dans le secret. La plante, quand elle est semée, on ne voit pas ce qui se passe. Et puis un jour, ça sort, et puis ça grandit. Dieu prend soin, et Dieu nous promet qu'il veille. Et que ce germe qu'il a mis dans nos cœurs, eh bien, ça grandit. Et que ça va devenir une belle plante, un grand chêne pour sa gloire. Soyons donc patients envers nous-mêmes, envers les autres aussi. Ayons foi que Dieu fait grandir ce salut en nous, parce qu'il est fidèle. Il y a un seul salut en Jésus-Christ, mais on le sait, il y a multitude de plantes. Alors là, il est question des chênes, mais on est aussi tous différents. On est réunis dans une seule et même famille de Dieu. On est la plantation de l'Éternel pour manifester sa splendeur. Nous sommes les chênes de justice de Dieu. Et puis, Ésaïe 61 nous dit aussi que nous sommes les prêtres de l'Éternel, ses serviteurs. Oui, lorsque nous acceptons ce salut de Dieu, nous formons le peuple de Dieu comme une plantation de Dieu. L'Église de Dieu qui est en route, qui est en croissance, et son rôle, c'est de manifester cette splendeur de Dieu. Alors parfois, on ne le manifeste pas trop, moi la première, et pourtant, il nous dit, vous êtes ma plantation, vous manifestez ma gloire. Waouh, quel rôle, quel privilège, quelle responsabilité aussi. C'était le projet de Dieu dès l'Exode, quand il a dit à son peuple, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. » Le peuple d'Israël a échoué dans sa mission. Alors Dieu s'est tourné vers les nations païennes dont nous faisons partie. Et puis un Pierre nous le dit, « Vous êtes la race choisie, les prêtres du Seigneur, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. » Oui, c'est un honneur, un privilège d'être au service de ce Dieu tout-puissant qui tient toutes choses dans sa main et qui nous offre ce salut par pure grâce. Et puis l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Vous avez vu à la fin de notre texte, le Seigneur nous permet de rebâtir les ruines d'autrefois. Le verset 4 nous dit « Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. » Dieu promet une restauration totale et profonde qui sera achevée dans l'éternité. Dieu fait de moi une nouvelle personne et cette œuvre de Jésus-Christ se fait en collaboration avec moi parce que Jésus, il ne va pas travailler contre ma volonté, mais il va permettre la restauration de mes ruines. Dieu constate qu'il y a des ruines dans ma vie, dans nos vies. Il constate les dévastations de ses enfants. Il voit ce qui les rend captifs et il vient libérer. Il vient, il nous offre ce salut, mais il veut nous rendre participatifs à la restauration. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Et puis, vous le saurez peut-être mieux que moi, quand on se lance dans un chantier, ça prend du temps. Il faut d'abord faire l'état des lieux. Il faut reconnaître l'état initial, l'état réel du bâtiment. Et puis ensuite, il s'agit de prier, de réfléchir, de planifier la reconstruction. Et puis souvent, avant de reconstruire, il faut ôter les pierres abîmées. Parfois, il faut les jeter, les trier, les nettoyer, trier. Et puis seulement ensuite, rebâtir du neuf, rebâtir quelque chose de solide. Et puis, monter des nouveaux murs. Ça nous montre bien, quand on parle de reconstruction, que ça prend du temps. Comme l'image du chêne qui pousse, ça prend du temps. Mais avec Dieu, la restauration, le relèvement des murs, c'est en route. C'est un processus qui est en cours de route. Croyons-le, Dieu nous promet qu'il veut faire cette œuvre dans nos vies. Reconnaissons alors d'abord, oui, qu'il y a des ruines dans nos vies ou dans nos églises. Reconnaissons qu'on a besoin d'être restaurés et puis mettons-nous à l'œuvre avec l'aide du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu est fidèle. Et puis, Dieu insiste sur le fait qu'il aime la justice et qu'il récompense avec fidélité. Il dit, « Moi, le Seigneur, j'aime en effet qu'on respecte le droit. Et je déteste, je trouve indigne qu'on prenne quelque chose de force. Je vous donnerai donc un vrai dédommagement et je m'engagerai avec vous solennellement et pour toujours. » Dieu nous parle de lui encore une fois dans ce texte. Il dit qu'il est juste, il dit qu'il est droit et il dit qu'il est fidèle en récompensant le bien. Alors, on est content, on se dit, c'est chouette, c'est bien, on est vraiment heureux parce que Dieu va récompenser notre bien. Mais ça veut dire aussi que Dieu récompense le mal, si on peut parler de récompense. On attend, c'est vrai, la justice de nos torts. On attend la récompense. On aime avoir des récompenses de nos efforts. Mais oui, si Dieu récompense le mal, le bien, comme il l'a promis, il dédommage nos pertes avec fidélité. Mais à combien plus forte raison ne dédommage-t-il pas aussi et ne va-t-il pas juger le mal? La parole de Dieu nous l'enseigne. Elle annonce la grâce de Dieu elle annonce aussi sa justice. À nous de nous placer devant Dieu avec honnêteté, à mettre nos vies en règle et puis à agir avec fidélité dès aujourd'hui en fonction de ce que Dieu attend de nous. Alors, pour conclure, n'oublions pas que Jésus nous a couverts de ce manteau de la justice. Il veut transformer nos vies pour que nous resplendissions de sa gloire et pour que nous soyons restaurés. C'est un processus qui est en route. Dieu fait germer, Dieu fait grandir sa justice et son salut, ainsi que la joie et la louange dans nos vies. Alors, saisissons-le pour réellement le vivre, pour avancer avec lui, collaborer avec lui. Oui, on pourra nous réjouir en lui. Plaçons-nous devant lui. Et oui, disons-lui en toute honnêteté, là où on en est, accueillons-le et redisons-lui que nous voulons marcher avec lui et construire, grandir avec lui et dans son Église. Amen.